Salut les kids, l'émission pour enfants de Radio G. Lecture, culture, c'est l'heure du temps calme.
Salut les enfants, c'est Nicolas. Bienvenue dans la 13e émission de Salut les kids. 13, le chiffre porte-bonheur du vendredi 13. Mais dommage pour nous car aujourd'hui c'est mercredi. Alors, on ne va pas se laisser faire et vous allez quand même profiter avec des histoires comme d'habitude. En plus, demain, c'est un jour férié. Ça veut dire pas d'école. Je vous ai préparé une nouvelle histoire de Tommy Ungerer, le fameux écrivain pour enfants dont vous avez déjà écouté certaines lectures. Souvenez-vous les enfants, cette histoire des deux enfants perdus en mer d'Irlande, c'était lui déjà. Il y aura aussi des contes extraits des livres Raconte-moi que vous avez découvert la semaine dernière. Tout ça pour vous faire voyager encore plus dans votre monde imaginaire et vous reposer dans ce temps calme. Do you speak English, my friends? Pour votre cours d'anglais, je voudrais profiter de la sortie du film Minecraft pour justement vous expliquer ce que ça veut dire, puisque mine et craft sont deux mots que vous pourriez utiliser. Ce sont donc les deux mots d'anglais du jour, et puis une comptine en anglais que vous propose, comme d'habitude, mon partenaire d'émission Elliot. On partira aussi en visite au Labo des Sciences. Je vais vous parler des tornades. Les tornades sont incroyables et peuvent faire peur, mais je suis sûr que si je vous explique pourquoi il y a des tornades sur la planète, cela vous donnera envie d'en savoir plus et de vous intéresser à elles. Tout ça, c'est pour aujourd'hui dans votre émission Salut les Kids. Et si vous êtes prêts, alors c'est parti pour une nouvelle émission sur Radio G. Alors, est-ce que certains d'entre vous sont allés au cinéma voir le film Minecraft ? Moi, je l'ai vu, j'ai bien aimé, même si je ne suis pas un joueur de Minecraft. Je salue d'ailleurs mes copains Fabien et Mathias qui adorent ce jeu et me l'ont fait découvrir. En attendant, voici donc le premier mot d'anglais de cette émission.
Oyez, oyez ! C'est l'heure du mot d'anglais.
Et c'est parti, le mot du jour, c'est « mine ». Mine, mine. Ça veut dire la mine, comme la mine de diamants où vont les sept nains dans Blanche-Neige. Mais ça veut dire aussi le mien, comme quand vous parlez d'un objet qui est à vous. Il s'écrit en quatre lettres. M-I-N-E. En anglais, M-I-N-E. Mine. Pour Minecraft, mine veut dire aller à la mine et extraire des ressources. C'est comme creuser dans le sol et trouver des choses que l'on peut transformer. Les objets que vous possédez chez vous, comme vos jouets, la voiture de papa et maman, et même moi avec le micro dans lequel je vous parle, sont fabriqués à partir de ressources qui ont été minées dans le sol. Sur la planète, il y a des mines de charbon, coal mine, des mines de diamants, diamond mine, des mines d'or, gold mine, et des mines de pierre, rock mine. Et toutes ces mines nous permettent de trouver dans le sol des ressources qui servent à fabriquer nos objets de tous les jours. Mine, ça veut dire aussi le mien. C'est-à-dire, quand vous parlez d'un objet qui vous appartient, vous pouvez dire « This is mine », c'est le mien. Je vous propose d'écouter une chanson qui parle de la mine. En anglais, c'est la chanson « Hey Ho » des sept nains de Blanche-Neige. Écoutez.
If you dig, dig, dig with a shovel or a pick.
In a mine,
in a mine,
in a mine,
in a mine,
where a million diamonds shine.
We dig, 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 dig from early on to night. We dig.
Et voilà les enfants, vous êtes des petits mineurs de fond maintenant et je vous retrouve tout à l'heure en cours d'émission pour le deuxième mot d'anglais du jour. Et on démarre maintenant les lectures avec la première histoire qui s'appelle « La grosse bête de Monsieur Racine ». Une histoire de 1971, elle a été écrite il y a plus de 50 ans. On n'était même pas nés, vous et moi les enfants. Allez, préparez-vous au voyage. 3, 2, 1, c'est parti.
la grande histoire.
La grosse bête de Monsieur Racine. Monsieur Racine, receveur des contributions directes en retraite, vivait paisiblement dans une villa retirée. Il était heureux à sa façon, allant, venant, les pieds à l'aise, surveillant les oiseaux et les nuages et bricolant dans son petit jardin. Dans ce jardin poussait un poirier dont Monsieur Racine était très fier. Il portait des fruits d'un parfum et d'un goût extraordinaire. Les poires de cet arbre lui avaient valu de nombreux prix au concours agricole de la région et des millionnaires avaient offert d'en acheter très cher la récolte. « Que ferais-je de tout cet argent ?» pensait Monsieur Racine. « Les poires sont à moi. Je les aime, je les mange. Elles ne sont à vendre, ni en gros, ni en détail. » Monsieur Racine était un homme heureux, mais un matin, hélas, trois fois hélas, il s'aperçut que toutes ses poires avaient disparu. En menant son enquête dans l'enclos, il remarqua de curieuses empreintes que le voleur avait laissées derrière lui. Oui, des empreintes vraiment étranges. C'était comme si la terre avait été foulée par un gros pilon plutôt que par des pieds. « C'est renversant, véritablement renversant !» s'écria-t-il. « Il n'y aurait qu'un jeune éléphant pour avoir laissé de telles traces. Une poire pendait, immobile, à une haute branche. « Ah, il en reste une !» dit Monsieur Racine. Le maraudeur viendra sûrement la chercher, et je lui donnerai alors sur place la punition qu'il mérite. Il alla chercher du fil, en attacha un bout à la poire dorée et l'autre à la sonnette qui pendait à l'entrée de la villa. Puis, il passa son vieil uniforme de cavalier et se sangla dans sa cuirasse luisante. Face à la porte ouverte, il attendit tout le jour, son sabre sous la main, prêt à servir. Les heures s'écoulèrent, et Monsieur Racine s'endormit. Le soir tombait lorsque, soudain, la sonnette se mit à tinter timidement. Notre justicier se leva d'un bond et saisit son sabre. « Oh, sabristi !» Là, dans le crépuscule, se tenait une bête qui était bien la chose la plus étrange que Monsieur Racine eût jamais vue. C'était à peu près de la taille d'un jeune veau. De loin, on eût dit un tas de vieilles couvertures. De longues oreilles flasques pendaient comme des chaussettes des deux côtés d'une tête dont on ne voyait pas les yeux. Une crinière hirsute couronnait un museau tombant. Les pieds ressemblaient à des souches et les genoux flottaient dans une peau trop large. Ça ne faisait aucun bruit. La colère de Monsieur Racine fit place à la curiosité. « Ça ne paraît pas bien dangereux », se murmurait-il en sortant de sa maison. La bête ne bougeait pas et semblait même disposée à faire connaissance. Monsieur Racine sortit un macaron de sa poche et, le piquant à la pointe de son sabre, le présenta à la bête. L'offre amicale fut acceptée. « Quelque gentillesse de ce genre et on pourrait l'apprivoiser !» pensa Monsieur Racine. Il alla dans sa cuisine, en rapporta un morceau de tarte aux pommes, du saucisson, du pâté et une bouteille de vin rouge. Et l'homme et la bête pique-niquèrent cordialement sous le poirier. Il faisait nuit quand l'animal se leva pour partir. « Bonne nuit, douce chose !» dit Monsieur Racine en embrassant sur les deux joues son visiteur. « Revenez demain, nous passerons tous deux d'agréables moments. » Depuis ce jour, la bête revenait à chaque fin d'après-midi et chaque nuit, elle disparaissait dans la forêt d'où elle était venue. Elle était surtout friande de biscuits, de chocolat et de crème glacée. Monsieur Racine désirait tellement plaire à son invité qu'il fit installer à grands frais un congélateur pour conserver les énormes bacs de glace qu'on lui livrait de la ville. Les jours de pluie, il se contentait de rester à l'abri, assis sur le vieux sofa que Monsieur Racine avait hérité de sa tante Sophie. Les deux amis aimaient la musique qu'ils écoutaient avec ravissement. « J'ai perdu mes poires, » pensait l'ancien receveur. « Mais j'ai trouvé un ami. » Les jours de beau temps, quand l'état des routes le permettait, il chargeait la bête dans une remorque accrochée sur son tricycle à moteur et il démarrait à une vitesse vertigineuse. L'animal était folâtre et Monsieur Racine lui aménagea tout un terrain de jeu pour qu'il puisse s'y ébattre à son aise. C'était un beau spectacle de voir le vieil homme et son protégé s'y détendre ensemble. Monsieur Racine ne cessait pas d'étudier l'animal, de prendre des photos, de faire des croquis, de noter des mesures. Mais il ne lui trouvait aucun rapport avec une forme vivante quelconque. Les tissus de son corps étaient sans vie et il n'avait pas de squelette. L'ensemble du corps paraissait être un assemblage de parties vivantes indépendantes les unes des autres. Monsieur Racine fouilla sa bibliothèque pour y trouver quelques indications. Mais rien. Nulle part, on ne parlait de la bête. Monsieur Racine décida donc d'écrire à l'Académie des sciences de Paris. Il joignit à sa lettre une étude détaillée sur le comportement de l'animal, ainsi qu'un choix de photographie. La réponse ne se fit pas attendre. La découverte de Monsieur Racine avait fait sensation parmi les académiciens et on l'invitait à venir la présenter à Paris. Il se mit tout de suite au travail et, avec l'aide de l'animal, il construisit une cage confortable. Elle fut transportée à la gare la plus proche aux frais de l'État. L'arrivée à Paris fut triomphale. Le président du conseil municipal lui-même souhaita chaleureusement la bienvenue à ce nouveau prodige français. Des musiques militaires escortèrent nos amis jusqu'à l'hôtel. Partout se trouvaient des reporters et des photographes. Des propriétaires de cirques, des directeurs de zoos et de riches amateurs offrirent des fortunes à Monsieur Racine pour son animal, mais en vain. « Que ferais-je de tout cet argent ?» répétait-il. « La bête est mon amie, et on ne vend pas ses amis. Laissons donc les choses comme elles sont. » Le lendemain, c'était le grand jour. Les académiciens étaient réunis dans l'amphithéâtre. À 10 heures, la porte du fond de la scène s'ouvrit, et Monsieur Racine entra, vêtu d'un complet noir bien coupé, et suivi de la bête. Il y eut des « oh » et des « ah » dans l'assistance, qui se mit tout entière à applaudir. Quelques dames s'évanouirent. Sur l'estrade, Monsieur Racine était prêt à faire sa présentation. « Mesdames, messieurs, honorables académiciens !» Et c'est alors qu'il se produisit quelque chose d'incroyable. L'animal, qui était toujours resté silencieux, éclata nerveusement d'un rire bête. En se secouant et en se tortillant, il se fendit et se mit en pièces. Et d'un tas de pots et de chiffons sortirent deux enfants. L'assemblée, d'abord muette et frappée de stupeur, se déchaîna en un vacarme épouvantable. Ce fut la panique. On appela la police pour évacuer l'amphithéâtre. Quand la nouvelle se répandit parmi la foule des curieux qui attendaient dehors, une bagarre s'engagea. Des autobus furent renversés. Des actes inqualifiables furent commis. Ce fut un beau gâchis. On en parle encore aujourd'hui. Monsieur Racine, qui avait le sens de l'humour, trouva la farce à son goût. Après avoir félicité les enfants pour leur ingéniosité et leur endurance, il leur fit faire un tour de la capitale. Puis, ils rentrèrent tous à la maison, et les enfants furent rendus à leurs parents, de braves paysans qui habitaient de l'autre côté de la forêt. L'année suivante, Monsieur Racine eut une nouvelle récolte de poires qu'il fut tout heureux de partager avec ses deux jeunes amis. Fin de l'histoire. Oh, quelle est belle cette histoire, et je vous invite à la retrouver dans votre bibliothèque, les enfants, car les dessins sont super à regarder dans le livre. Allez vite l'emprunter. Pour continuer l'émission, on file au Labo des sciences pour comprendre les tornades.
Approchez les enfants. Bienvenue dans le laboratoire de Salut les Kids. Est-ce que vous êtes prêts à percer les mystères de la science ?
Et aujourd'hui dans le labo, on va parler d'un phénomène météo aussi impressionnant qu'un dragon qui vole dans le ciel, la tornade. Vous savez, une tornade, c'est comme un aspirateur géant qui descend des nuages et touche le sol. Mais pas de panique les enfants, je vais vous expliquer comment ça se forme, pourquoi les scientifiques les étudient et même comment vous, à la maison, vous pouvez créer votre propre mini-tornade. Tout commence avec un orage, mais pas n'importe lequel. Un orage très puissant, qu'on appelle une supercellule. Imaginez que, en haut, dans les nuages, de l'air chaud monte très vite. Et en même temps, de l'air froid descend. Quand ces courants d'air se croisent, ils se mettent à tourner, car les molécules s'entrechoquent. Cela forme une sorte de spirale invisible. Plus les vents vont vite, plus la spirale s'agrandit et descend des nuages vers le sol. Et plus elle touche le sol, plus elle devient dangereuse, et cela forme une tornade. Une tornade peut aspirer des objets, déraciner des arbres et même soulever des voitures. Pour savoir si la tornade est très forte ou pas beaucoup, on utilise l'échelle de Fujita, qui est un classement des tornades selon leur force. Force 0 pour les plus petites et force 5 pour les plus grosses. Une tornade de force 0 est beaucoup moins dangereuse qu'une tornade de force 5 qui peut tout emporter sur son passage. Heureusement, elle ne dure que quelques minutes et elle ne se forme pas partout. On les voit souvent aux États-Unis car il y a des courants d'air chaud qui remontent de l'équateur, mais aussi des vents froids qui viennent des montagnes à l'ouest et aussi du Canada au nord. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de tornades aux États-Unis. Il existe d'ailleurs la Tornado Alley, qui est en plein milieu des États-Unis, entre le chaud en bas et le froid en haut. Les scientifiques adorent comprendre les tornades, et c'est pour cela qu'on les observe. Car les tornades sont puissantes et imprévisibles. C'est pour ça que les scientifiques, qu'on appelle aussi des chasseurs de tornades, les étudient avec des instruments spéciaux. Ils veulent comprendre quand et où les tornades vont apparaître, pour pouvoir prévenir les gens à temps et éviter les accidents. Ils utilisent alors des radars, des satellites, et parfois ils vont même sur place avec des voitures blindées pour voir les tornades de près. Leur mission est très importante car ils sauvent des vies grâce à la science. Et maintenant les enfants, à vous de jouer. Voici une petite expérience très simple à faire chez vous pour recréer une tornade. Tout d'abord, il vous faut du matériel que vous pouvez trouver très facilement en allant demander à papa et maman. Il vous faut une bouteille d'eau en plastique vide et propre. Il vous faut de l'eau, un peu de liquide vaisselle, et si vous avez ça dans votre mallette d'activité manuelle, une pincée de paillettes pour que la tornade soit plus jolie. Et comment faire alors une tornade avec tout ce matériel ? Tout simplement, vous prenez votre bouteille d'eau, il faut la remplir aux trois quarts. Ensuite, vous mettez quelques gouttes de liquide vaisselle à l'intérieur et les paillettes si vous en avez. Vous refermez la bouteille et attention, vous la prenez dans vos mains et vous la tournez en cercle dans vos mains. Et regardez, la tornade se forme à l'intérieur. Vous venez de créer une mini-tornade, les enfants. Allez-y, entraînez-vous. Et vous pouvez expliquer à votre famille que l'eau tourne à cause du mouvement, un peu comme les vents qui tournent dans une vraie tornade. En conclusion, les tornades, ce sont les aspirateurs du ciel. Mais grâce à la science et à la curiosité, elles deviennent beaucoup moins mystérieuses. Alors, vous aussi, continuez à observer le ciel et à vous poser des questions. Et qui sait, peut-être qu'un jour, vous serez aussi des chasseurs de tornades. Eh bien les enfants, vous voilà spécialistes des tornades maintenant. Le ciel est un endroit mystérieux qui nous révèle toujours des secrets encore aujourd'hui. Le Labo des Sciences revient dans la prochaine émission et en attendant, on passe à la deuxième lecture du jour. C'est parti.
La deuxième histoire.
Deux amis pour la vie. Dans la savane, il y avait une flaque d'eau, un roseau et trois brins d'herbe. Un escargot et un éléphant avaient soif et chaud.
« Ne touche pas à mon eau !»
dit l'escargot.
« Ne touche pas à mon eau !»
dit l'éléphant.
Bing, boum !
Dans la bagarre, l'éléphant glissa sur l'escargot.
« Ma coquille est en mille morceaux !»
dit l'escargot.
« J'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos !»
dit l'éléphant.
« Je te fais un pansement avec la feuille du roseau !»
dit l'escargot.
« Je te soigne la bosse que tu as sur le dos !»
dit l'escargot.
« Tu as trop chaud, je te fais un jet d'eau !»
dit l'éléphant. L'éléphant a trouvé dans l'eau une noix de coco. Il en fait une coquille pour l'escargot. L'escargot a taillé une canne dans le roseau. Il l'a donnée à l'éléphant. L'escargot et l'éléphant ont partagé l'herbe. Un brin pour l'escargot et deux brins pour l'éléphant, parce qu'il est plus gros. Et voilà, l'éléphant et l'escargot sont maintenant deux amis qui s'en vont chercher une autre flaque d'eau. Fin de l'histoire. Eh bien voilà les enfants, encore de superbes histoires. On retourne à notre mot d'anglais du jour pour décortiquer Minecraft.
Oyez, oyez, c'est l'heure du mot d'anglais.
Et le deuxième mot d'anglais, le voici donc, on en parlait tout à l'heure. Craft, craft, craft. Craft représente les métiers manuels, l'art de fabriquer. Il s'écrit en 5 lettres. Le C, R, A, F, T. En anglais, C, R, A, F, T. Craft. Craft, s'utilise avec une matière comme le bois, wood. On dit woodcraft, ce qui représente le travail du bois comme fabriquer des meubles, mais aussi la connaissance de la forêt. Quand vous fabriquez quelque chose avec vos mains, les enfants, vous faites du craft. Et alors, dans Minecraft, vous utilisez la mine pour fabriquer des objets. C'est simple. Alors maintenant, les enfants, exprimez votre art et votre passion pour les activités manuelles et à vous l'art du craft. Juste avant de terminer ce cours d'anglais du jour, je vous propose d'écouter une comptine pour bien manger que vous récite Elliot.
Apple, banana, carrot, peas, tomato, egg, milk, healthy food, yes, 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 healthy food is good for me, healthy food, yes, 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 yummy, yummy, I'm fish tongue. Orange, cheese, chocolate cake, healthy food, yes, 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 healthy food is good for me, healthy food, yes, 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 yummy, yummy, I'm fish tongue.
Et voilà les enfants, c'est fini pour aujourd'hui. Let's craft now, or play Minecraft. On fait une pause avant d'ouvrir l'agenda des sorties. Je vous retrouve juste après, le temps d'aller chercher un bonbon ou de vous réinstaller confortablement pour la suite de l'émission. Salut les kids, c'est l'émission pour enfants de Radio G. Retrouvez-moi Nicolas, un mercredi sur deux à 13h. Salut les kids, c'est une émission fun et éducative, avec de la lecture et de la culture. Toi aussi, viens t'amuser avec nous sur le 101.5 FM. Allez, salut les kids. Et vous êtes toujours sur Radio G dans Salut les kids, les enfants. Et c'est l'heure de l'agenda. Et ce week-end, le 3 et 4 mai, samedi, dimanche, tous aux Toureilles, entre Angers et Saumur pour la fête des bateaux. Animation, spectacle, danse, concert et bateaux sur la Loire vous attendent. Pour les enfants, un monde plein de curiosités à découvrir avec des vieux bateaux, des vieux monsieur, mais aussi plein de places pour jouer, se défouler et manger plein de frites. Accès gratuit à partir de 15h et jusqu'à dimanche 18h. Ensuite, c'est le printemps des folies aux Folies Angevines à Angers. Je vous invite donc à regarder le programme avec vos parents. Il y a plein de théâtre et de culture à voir par des enfants, pour des enfants. Ne ratez donc pas l'occasion d'aller au théâtre. Et c'est l'heure de la dernière histoire du jour, toujours extraite du livre « Raconte-moi ». C'est parti.
Elliot, tu crois que c'est la dernière histoire ?
Oui, vite.
Des mots pleins les poches. Il était une fois un petit bout de femme qu'on appelait Esopinetta. Elle était toute ronde, ses joues étaient comme des pommes d'api, son chignon au sommet de sa tête ressemblait à une orange dorée et ses bras potelés sortaient de son corsage rebondi. Esopinetta portait toujours 49 jupons qui possédaient des centaines de petites poches fermées, chacune par un bouton de nacre. Et dans chaque poche, Esopinetta mettait des mots. D'ailleurs, quand elle marchait en faisant se balancer ses jupons de droite à gauche, on entendait comme un murmure. Esopinetta était une gardienne et une donneuse de mots. Ainsi, devant les enfants qui criaient parce qu'ils voulaient leur goûter, Esopinetta s'arrêtait, soulevait ses jupons et trouvait la petite poche qui contenait les mots qu'il fallait comme « un gâteau, s'il vous plaît » ou « je voudrais du sirop d'orgeat » ou bien encore lorsqu'elle entendait des enfants se battre comme des chiffonniers en poussant des cris effroyables, elle sortait les mots qui permettaient de se disputer en piquant des colères épouvantables, les mots pour s'expliquer et puis pour se réconcilier. Les mots des jupons d'Esopinetta servaient aussi pour dire les gros chagrins ou les peurs terribles. Parfois, Esopinetta allait dans le grenier chercher des mots anciens, des mots comme « troubadour », « damoiselle », « gage d'amour », galanterie. Elle les déposait délicatement dans les poches des jupons du dessous parce qu'ils ne servaient pas souvent. Mais lorsqu'elle les laissait voltiger, cela donnait de jolies histoires de fées, de chevaliers et de sorcières qui ravissaient les enfants. Alors, Esopinetta souriait doucement en s'éloignant dans ses jupons chuchotant. Bref, en ce temps-là, et dans ce village-là, les enfants grandissaient en apprenant beaucoup, beaucoup de mots. C'est ainsi qu'ils pouvaient dire l'odeur des pivoines et des roses, le goût des pêches et des cerises, les mots pour jouer et se chamailler, se dire qu'on était amis pour la vie. Un peu à l'écart du village, tout près de la forêt, vivait un petit garçon qu'on appelait Motus. Il habitait dans une maisonnette en bois avec son père qui était bûcheron. Depuis de longs mois, Motus avait enfermé dans son cœur un gros chagrin et il avait décidé de ne pas en dire un mot à personne. Solitaire, il passait le plus clair de son temps avec son chat Misty, qui était son seul ami. Son papa était triste de le voir ainsi, mais il avait beau essayer de le faire parler de son chagrin, Motus restait muré dans son silence. Motus allait souvent se réfugier dans la forêt. Il aimait s'installer au pied d'un grand chêne. Les branches autour de lui faisaient comme une petite cabane. Là, assis sur la mousse, le nez dans son écharpe, il se sentait en sécurité, mais en même temps terriblement malheureux. Un jour, il entendit une sorte de gazouillis qui venait du chemin menant au village, et il eut envie de savoir ce qui se passait. Il grimpa sur une branche et regarda avec curiosité. Il vit tout d'abord des enfants de son âge qui riaient et dansaient ensemble, puis il remarqua Esopinetta et ses jupons gonflés. Elle avançait sur le chemin en sortant des poches de ses jupons des mots qui voletaient autour d'elle, telle une nuée de passereaux. Les enfants s'en emparaient et les prononçaient comme s'ils dégustaient quelque chose de très bon, comme si c'était un jeu. Motus écarquillait les yeux et se mit à avoir très envie de pouvoir lui aussi jouer avec les mots. Il descendit de son arbre et rentra chez lui. Son père coupait du bois dans le petit jardin. Le tirant par la manche, Motus lui demanda la permission de se rendre au village. « Va, mon garçon, va t'amuser un peu, » dit le père, heureux de voir réapparaître comme une petite lumière dans les yeux de son fils. Lorsque Motus arriva au village, c'était le jour de la grande lessive. Le linge tout propre séchait au soleil dans les jardins fleuris, et les 49 jupons d'Esopinetta claquaient gaiement dans le vent du printemps. Motus en fut d'abord tout ébloui, puis il se rappela ce qu'il espérait trouver et se faufila entre les jupons suspendus. Avant de faire sa lessive, Esopinetta avait sorti tous les mots des poches de ses jupons et les avait rangés dans une grande malle dans sa cave. Cependant, une poche avait été oubliée et des petits bouts de mots un peu chiffonnés sortaient à moitié de la poche entrouverte. Motus s'approcha et saisit prestement les mots oubliés pour les mettre dans sa poche. Puis il se dépêcha de retrouver l'abri de la forêt. Là, il fit sécher les mots, les déplia, les lissa avec sa main et s'efforça de les déchiffrer. Cela prit du temps, et peu à peu la musique des mots oubliés se mit à danser dans sa tête et dans son cœur, comme des petites clochettes. Il ressentit alors une grande émotion. Il s'assit et se mit à réfléchir. La nuit porte conseil. À l'aube, alors que son père dormait encore, il se leva et se dirigea vers le village. Devant la porte de la maison d'Esopinetta, son cœur battait très fort et il frappa. Esopinetta ouvrit la porte et lui dit en souriant « Je t'attendais. » Fin de l'histoire. On se réveille doucement de toute cette culture et de cette lecture. C'est l'heure de se dégourdir en musique, comme d'habitude, pour terminer l'émission. Je vous retrouve juste après ça. Et salut les kids, c'est terminé pour aujourd'hui. Profitez bien du jour férié les enfants. Amusez-vous, allez jouer dehors et fabriquez, craftez avec vos mains toutes vos idées pour faire vivre votre imagination. Moi, je vous retrouve dans 15 jours. Alors, en attendant, Elliot et moi vous saluons. Allez, salut les kids.
Salut les kids. C'était l'émission pour enfants de Radio G. Retrouvez-nous en podcast sur le site www.radio-g.fr.